Bonjour et bienvenue sur les ondes du 88.8 FM sur Radio Grenouille. Nous vous accueillons comme chaque troisième lundi du mois dans notre émission Les Uns et les Autres. Comme à notre habitude, hein, vous connaissez, dans une ambiance détendue, chaleureuse, et nous allons passer une super heure ensemble. Je suis aujourd'hui en compagnie de l'immense, du gargantuesque, du gigantesque, monsieur qu'on appelle Ozanne. Comment tu vas ?
On est d'accord, il abuse un peu quand même, hein, surtout les adjectifs qualificatifs.
À chaque fois, j'essaie d'en trouver d'autres.
Hein. Je vois ça, tu te renouvelles à chaque émission, c'est parfait. Mais écoute, ça me flatte énormément. Tu continues comme ça, je vais m'envoler, hein, je vais prendre la grosse tête.
Hein. J'aimerais que tu t'envoles. Comment ça va ? Parce que je voulais te poser une question, la Saint-Valentin est juste derrière nous. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, en ce jour le plus important de l'année ?
Écoute, c'est super drôle, c'est une Saint-Valentin qui se démarque des autres que j'ai pu passer parce que j'étais en robe de mariée avec un bon pote à moi qui était aussi en robe de mariée.
Vous êtes mariés ?
On s'est mariés officieusement. Bon, mais maintenant, je suis heureux de dire que je suis marié. Voilà.
Magnifique.
Et c'était une amie à nous, Bettina, qui en gros fait un projet par jour pendant tout le mois. Et il faut charbonner, hein. Un shooting, une vidéo tous les jours. Je sais pas où c'est qu'elle trouve l'énergie, en tout cas pas chez moi.
Est-ce qu'elle dort ? Elle prend le temps ?
Apparemment pas. J'ai cru comprendre qu'elle dormait une demi-heure par jour, donc...
Eh ben, félicitations à elle. Est-ce qu'on peut voir ce projet-là sur quelque part ?
Bien sûr, sur Instagram, Latina Énervé, en trois lettres, N-R-V, Latina Énervé.
Parfait.
Et toi alors, tu as fait quoi pour la Saint-Valentin ?
Eh ben moi, la Saint-Valentin, c'était moins glamour. Hein. Écoute, j'ai passé la journée dans les transports, entre train et métro, mais c'était, somme toute, assez agréable. Hein.
C'est un aspect romantique, les trains, quand même. Hein.
Ouais, tu vois, il y avait la pluie qui tapait contre la vitre, qui coulait, ma tête qui s'entrechoquait à chaque changement de rail. Comme ça, ouais, c'était vraiment génial. Hein. Mais ça fait du bien aussi, des fois, de le passer avec soi-même.
De fou.
Aujourd'hui, nous allons parler sentiments et plonger au cœur de l'amour grâce à notre invité du jour, l'artiste Gaspard Gambin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans les studios pour partager ce moment. Salut Gaspard, comment tu vas ?
Bonjour, ça va très bien. Merci, merci de m'inviter.
C'est un grand plaisir aujourd'hui et puis c'est complètement dans le thème. On va y rentrer petit à petit et puis aujourd'hui le sommaire, donc ce sera une interview, de la lecture, une table ronde et le tout parsemé de propositions musicales les plus intéressantes. Les unes que les autres.
Anna nous a également rejoint dans l'aventure des uns et des autres. Salut Anna, comment tu vas pour ta première émission ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Écoute, super. Est-ce que tu le sens bien ?
Ouais, ça va, en pleine forme.
Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, on se chauffe les oreilles avec la recommandation musicale de ta personne.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, dis-nous ?
Alors, la chanson dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Nurture de Sabrina Claudio. Il s'agit là d'une représentation de l'amour évoquée du côté de la chanteuse. Nurture, qui veut dire nourrir en anglais, fait référence à ce côté de l'amour qui est de se donner à l'autre, de le combler d'un amour inconditionnel. Nourrir l'être aimé de son amour, puisqu'au final, nous en avons tous besoin. Se sentir en sécurité auprès de l'autre, sans déficit de ce sentiment si riche qui nous donnerait une sensation de n'avoir besoin de rien d'autre, rien de plus pour être heureux et comblé. Et comme le dit Sabrina Claudio dans son morceau, il s'agit là d'aller au-delà de cette surface, de cette coquille qui, une fois dépassée, renferme quelque chose de plus profond, de plus intense. De la même façon qu'on met notre santé dans les mains de celui qui nous nourrit, se donner en amour relève du risque de s'ouvrir, quitte à en être malade, comme on dit malade d'amour. Pour se laisser aimer et aimer, n'ayant besoin de rien de plus pour vivre. Je vous souhaite une bonne écoute. If the walls I need to break down, I'm willing. But I need your hands in the clouds to fully surrender to me.
Thank you.
gonna share this so much more to you, deeper than what's on your surface. Trust in me, holding you down, and help to embody your
Merci Anna pour cette recommandation musicale, c'était Nurture de Sabrina Claudio. Pour vous présenter Gaspard, il vous faudrait des heures, voire des années, revenir à Grenoble, dans sa ville natale où elle étudie au lycée Mounier, en option art appliquée. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on s'est rencontrés la première fois. La première fois d'ailleurs que j'ai entendu parler de toi, c'était par un ami qui me disait qu'un de ses camarades de classe avait pour projet de photographier chaque matin à la même heure pendant un an la vue du ciel depuis sa fenêtre. J'avais trouvé ça génial. Et j'ai seulement appris que c'était toi il y a 2 ans. Je sais même plus comment on en est venu à cette discussion. C'était Jonas, d'ailleurs big up à lui. Ensuite Gaspard, tu pars étudier aux Beaux-Arts de Marseille, dont tu sors diplômé d'un DNSEP avec les félicitations du jury en 2023. Bravo à toi.
Bravo.
Et pour rentrer un petit peu plus dans ton travail, ton espace de création s'articule autour de différentes pratiques corporelles, la danse, la performance, l'écriture et la lecture, avec pour faire de l'anse la contemplation et un imaginaire surréaliste. Tu travailles beaucoup avec une économie de moyens, tu réutilises beaucoup de matériaux, tu observes, enquêtes sur le vivant, tel un scientifique, mais au lieu de nous produire des rapports pompeux avec un vocabulaire incompréhensible, tu nous laisses plonger et nous invites dans des espaces où l'auditeurice, le spectateur, la spectatrice s'émerveille au moment de moments du quotidien. Aujourd'hui, tu travailles aussi avec la compagnie La Faille, autour de la scénographie et de la création de costumes. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ?
Bah déjà, merci pour cette super présentation, qui est très complète. Je pense que je peux vous raconter en ce moment aussi, quand j'ai un peu de temps libre, je fais des drag shows. Accompagnée de Luna Boissé, qui est une de mes très bonnes amies. Et on travaille à deux sur des formes où on va réfléchir à la fois au costume, à la chorégraphie, au make-up, pour créer ce personnage.
Ok, c'est hyper intéressant. C'est du coup un travail que tu es en train de monter. Est-ce que tu t'es déjà présenté sur scène lors de drag show ?
Alors la deuxième fois, ça a été au Boom, le 14 février, pour le soir de la Saint-Valentin.
Non.
Et si.
Donc t'as vécu une Saint-Valentin sur scène, c'est magnifique, c'est ce que tout artiste peut rêver.
Totalement, totalement. Puis moi j'ai toujours dit que mes vrais lovers c'était mes amis, et donc ça a été une excuse pour rassembler tous mes amis pour une fois pour la Saint-Valentin.
Et ça a fonctionné, d'ailleurs j'y étais, c'était fabuleux encore une fois, bravo.
Merci.
Aujourd'hui on t'a invité sur le plateau pour que tu nous présentes un travail qui traite de littérature érotique non genrée. C'est un travail en cours. Et je te remercie de le partager avec nous. Déjà, pour nos auditeurs, Quelle est la différence entre érotique et pornographique? Tu pourrais nous dire?
Je pense que il y a plus de suggestions. Et je dirais même que l'écriture que je fais, elle est plus sensuelle. Je la qualifie de sensorielle et de sensuelle.
Que d'érotique?
Oui, parce que je vais plus... Déjà, au-delà d'enlever le, de dégenrer l'écriture, je retire les sexes. Donc c'est vraiment la rencontre entre deux corps. Et ça va vraiment jouer sur un rapport sensuel où il va y avoir vraiment quelque chose qui s'intéresse à chaque partie du corps, à chaque glissement de peau. Et c'est dans le sens où je pense que la littérature que je fais, elle se rapproche plus d'érotique et de sensuel.
De la suggestion.
Voilà, exactement. Que de pornographique et elle est moins frontale et elle va plus glisser dans des endroits.
C'est hyper intéressant parce que pour moi le pornographique c'était vraiment dans l'image, hein, sur, autour des films et des photos, alors que l'érotique c'est peut-être plus...
Bon, on se posait la question, c'est
ouais,
vrai.
On se demandait ça et on s'est dit on va pas regarder comme ça.
Mais du coup c'est toujours pas la réponse. Est-ce que
je
ça
me
peut
demande
être...
ça convoque pas plus l'imaginaire.
Quoi, l'érotisme?
Ouais, je sais pas.
Est-ce qu'on peut voir des vidéos érotiques? Ben oui, bien sûr.
Oui, on peut les voir le soir à la télévision, après une certaine heure.
On ne dira pas quelle chaîne.
Et je voulais savoir, Gaspard, comment t'es venu l'idée de ce projet et quels sont les objectifs, si tu en as?
L'idée de ce projet, c'est arrivé après une... J'ai eu une longue période de ma vie où je n'ai pas partagé ma sexualité avec d'autres personnes. Et un jour, je vais à un date... par le biais d'une célèbre application de rencontre. Et les choses font que je finis par avoir un rapport avec cette personne. Peut-être qu'il faut faire un petit trigger warning, dont on va parler d'intimité, des moments qui peuvent être en rapport avec le consentement. Et donc je me retrouve dans ce rapport avec cette personne. Et à la suite de ce rapport, j'ai plein de questions qui m'arrivent. Parce que j'ai pas trop eu d'expérience d'une nuit, et surtout avec des inconnus. Parce que c'était quelqu'un qui était complètement inconnu. Et je commence en fait à écrire pour essayer de juste digérer ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, voilà, j'ai plein de questions qui arrivent. Et je me dis, ok, je vais enquêter sur la sexualité. Et je vais vivre mes aventures. Et les choses que j'ai envie de les d'écrire, elles s'apparaîtront. Voilà.
Et la naissance du coup de ce projet-là, à partir de ce moment-là, a démarré de manière instinctive. Je veux dire, tu as directement continué à aller utiliser l'application, à noter au fur et à mesure. Est-ce que le projet s'est construit au fur et à mesure ou tu avais déjà ton idée précise au début?
Absolument pas. Le projet s'est complètement construit au fur et à mesure parce que je travaillais avec du vivant. Mmh. Enfin, c'est mon corps et c'est le corps d'autres personnes. Et... bah, mes partenaires m'impactent. Et la première rencontre, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment lié à la consommation. D'un rapport, il y a quelqu'un aussi qui m'assure, qui je pense se sentait très très safe, et qui en même temps n'a pas toujours été safe pendant le rapport. Du coup, pendant le rapport, par exemple, je me suis fait écraser le visage par les mains de cette personne à plusieurs reprises de façon très forte. Et j'ai plusieurs fois dit que c'était pas mon truc, quoi, qu'il fallait arrêter, et la personne n'a pas entendu. Donc là aussi, voilà, il y a eu ces questions-là de questions de « Ok, comment est-ce que chacun vit le consentement ?» Parce que je pense que cette personne se sentait très alerte par rapport à ça. Et donc, il y avait quelque chose aussi de ces rencontres où moi, ça me permettait aussi de prendre de la distance. Puis en fait, bah, je suis tombée sur des personnes aussi qui m'ont énormément impactée d'un point de vue aussi de façon très bénéfique. Et qui aussi ont complètement changé toute cette enquête-là et changé le rapport que j'avais à ma façon d'entrer dans cette enquête. Voilà.
Et du coup, quand tu parles aussi du consentement, j'imagine que tu as ressenti à un moment ou à un autre des limites un petit peu à ce projet-là. Toi, il y avait peut-être un point où tu ne pouvais pas aller forcément plus loin. Est-ce qu'au fur et à mesure justement de ces rencontres, tu as cadré petit à petit ce projet-là pour peut-être toi ne pas que ça, comment dire, que ça ne te fasse pas de mal justement, et que parce que c'est un travail, comme tu dis, tu travailles sur le vivant, c'est sur toi, c'est sur quelqu'un d'autre, et que bah, ça reste ton corps aussi. Et c'est un...
Mais en soi, le travail, je pense que ça fait déjà une distance, non ? Qui fait que tu peux vivre des expériences, mais comme c'est dans un masque, tu te crées un masque pour ce travail-là, c'est comme si tu ne les vivais pas, en fait, ces expériences, peut-être ?
Je pense que je les vis quand même et que elles sont toutes importantes. C'est vrai que, en fait, la naissance de ce projet, elle est aussi passée par... Je pense que ça a été un moyen de protection de l'écrire. Ça a permis de mettre les choses à distance et de ce rapport qui était un peu particulier, de lui donner une autre valeur. Et après, je pense que le moment où il a fallu replacer des limites, c'est que l'application de rencontre, elle pousse à la consommation. Et en fait, il y a un moment donné où, à côté, en écrivant de la littérature sensuelle, bah du coup, je fabrique tout un imaginaire, je suis sur cette application de rencontre où ces gens-là, je les connais pas dans la réalité. Et donc, on perd très facilement la notion du réel. Et je pense que le fait que, en plus, j'écrive quelque chose qui est sensuel à côté, ça amène encore plus à ça. Mais donc, oui, il y a eu des moments où j'avais des dates et en fait, je sentais que c'était impossible que j'y aille. Et je comprenais que c'était le moment où c'était ma limite et c'était pas moi qui voulais y aller, c'était autre chose.
Le travail.
Exactement. Et c'était pas, et ce n'est pas du tout le but de ça. Et c'est pour ça que là, ça fait un mois que je fais une pause complète. Parce que j'ai compris qu'il y avait une limite qui avait été dépassée où j'y allais plus pour moi. Et là, c'était problématique parce que le but, c'est pas d'utiliser des gens pour écrire. Le but, c'est que, avant tout, je prenne du plaisir dans mes relations et dans mes rencontres.
Et, et alors, du coup, dans ces moments-là, comment ça se passe ? Est-ce que, donc, voilà, tu dates avec cette personne, vous vous retrouvez, est-ce que tu lui expliques que tu fais ça ou au contraire, pas du tout, pour ne pas peut-être influencer lui ou elle, enfin, son... le moment, influencer toute cette nuit, cette histoire, aussi courte soit-elle ?
Les premières personnes que j'ai rencontrées, j'en ai pas parlé. Et la dernière rencontre que j'ai faite avant de faire une pause, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, les personnes concernées à qui j'avais pas parlé de ce projet, je leur en ai fait savoir parce que ça me paraissait important. Je parle beaucoup de soins dans cette enquête et du rapport aux soins. Quels soins est-ce qu'on va donner à un corps inconnu ? Et à un moment donné, ça paraissait aussi important qu'il y ait du soin dans la façon dont je traite ces histoires, qui surtout m'avaient, enfin, m'ont aussi impacté d'une façon très forte en tant que personne. Et pour moi, ça me paraissait voilà, une notion de respect que de les tenir au courant, savoir si c'était OK, et plus de, au lieu d'écrire un peu caché, d'écrire peut-être avec ces personnes.
Oh, OK.
Donc ce serait peut-être, au fur et à mesure du travail, un peu un travail de co-écriture.
Pas forcément, mais en fait, rien que juste que de dire « Ah, je fais ça en ce moment, est-ce que c'est OK pour toi ?» Si je parle de la nuit qu'on a vécue, en fait, déjà, ça impacte tellement ma façon d'écrire. Et des fois, c'est... Enfin, donc ça amène à des discussions qui sont très intéressantes. Et en même temps, voilà, ça apporte à la fois un impact qui est différent sur mon écriture. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est que moi, je fais une narration du réel. Mais c'est hyper important pour moi enfin cette narration du réel, enfin elle se base sur une réalité et des choses qui se sont passées, mais c'est hyper important de protéger aussi un moment qui est pas anodin et qui est de deux personnes qui vivent quelque chose dans un lit. Et alors je me laisse aussi toute la liberté de changer des choses et j'essaye de aussi rendre mes partenaires anonymes.
C'est le principal anonymat en vrai, et c'est le fameux inspiré de faits réels que j'aime beaucoup.
Oui, et qui est très délicat.
En effet.
À travailler. Et
c'est une matière intéressante.
Complètement. Et ça pose énormément de questions sur les limites.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Gaspard, pour avoir répondu à nos questions, à nos interrogations. Pardon. Pour introduire tout en douceur la lecture, je vous propose aujourd'hui d'écouter le morceau « Mon amour, comment ça va ?» de Creamy J, issu de l'EP éponyme, qui est sorti également le 14 février. On reste dans le thème hein, de cette chère Saint-Valentin. Je vous invite fortement à aller écouter son EP. Elle sera aussi sur la scène du Makeda le 4 avril, organisé par le label Chinese Man Records, en compagnie d'autres artistes, notamment Stavo, de Ratus et j'en passe. Et prenez vite vos gages parce que ça part très très vite. Let's go mon amour.
Thank you. noir. Mes apparitions sont tout spectrales, je dis rien pour pas te décevoir. Aujourd'hui nous prend la tête, mais demain nous respectera. On est des milliards sur terre à penser qu'on est spécial. J'ai pas trop le cœur à la fête, pourtant je me donne en spectacle. Y'a des cercles noirs. Mes apparitions sont tout spectrales. J'dis rien pour pas te décevoir. Aujourd'hui nous prend la tête, mais demain nous respectera. On est des milliards sur terre à penser qu'on est spécial.
Merci Jack, c'était Mon Amour, Comment Ça Va de Krimiji, qui était vachement, vachement chill, j'ai bien aimé.
Ouais, merci à elle. Hein.
Ouais, merci à elle. Du coup, préparez-vous pour un moment de tendresse, attachez vos ceintures, fermez vos yeux, sauf si vous êtes en voiture, et laissez-vous emporter par cette lecture avec Gaspard aux commandes. C'est à toi.
Merci.
Je pourrais écrire sur les montagnes et sur ces douceurs à la mozzarella et la pistache jusqu'à ce que tu me reviennes. Je t'aime, j'aime ton souvenir. Si aimer est un verbe d'action, qu'est-ce que j'ai pu aimer, chaque parcelle, chaque grain, chaque miette de ton souvenir. J'imagine, m'imagine. Imagine si t'avais eu l'idée de m'aimer comme une montagne. J'ai grandi au cœur de ces montagnes qui semblent défier les nuages. Les années ont passé, aussi rapidement que les paysages qui défilent par la fenêtre de la voiture sur la route du retour des vacances. La roche et les sentiers se sont déformés sous mes yeux immobiles, alors que mon corps d'enfant devenait adulte. À chacune de mes respirations, les montagnes tendent un peu plus leurs bras vers moi. Ce ne sont plus des montagnes, ce sont des géants endormis qui ont oublié de se réveiller de cette sieste dont on pense seulement profiter quelques minutes. Alors que mon pied foule les courbes de leur dos, je semble léviter. Les branches de leurs cheveux caressent mes mollets découverts. Je suis cette plume qui se dépose sur leurs cheveux. Cette fourmi qui se balade sur l'avant de leurs bras, cette poussière qui se coince dans leur nombril. Le plus beau, c'est que malgré tout, je suis immense. Imagine. Imagine si t'avais juste tenté de me faire ressentir la même chose que lorsque je me retrouve face aux montagnes. On se serait aimé longtemps. On se serait aimé lentement. Ça a été l'amour qui dure juste une journée. Ça a été un dimanche d'été qu'on a essayé de perdurer. Sur ta peau, aucune neige éternelle. Aucun sentier qui s'efface sous l'herbe qui repousse, mais des crevasses, des brûlures, causées par un feu vif. À force de cuisiner plus que de dormir, le feu des plaques de cuisson a gagné le bout de tes doigts. À noircir tes ongles, à grimper le long de tes mains. Les épices de la Réunion t'ont ensorcelé, ont parfumé ta peau jusqu'à l'intérieur de ton corps, touchant ton estomac, tes intestins, tes poumons, et créant ainsi un feu ardent. Comment n'ai-je pas remarqué cette fine fumée noire qui s'échappe du creux de ton oreille droite et noircit tes cheveux pourtant blanchis par le soleil. Ma langue s'est brûlée sur chaque cicatrice de ton corps. Me voilà à plonger entre tes lèvres pour tenter de l'apaiser. Mais trop tard, je brûle déjà de nous. Je deviens comme toi, ce feu ardent. Les pores de ma peau s'ouvrent, laissant sortir l'odeur de la fleur d'oranger. J'ai si chaud. Je plonge dans la piscine et si rapidement l'eau s'évapore en m'enfermant dans un grand cube de rien. Je plonge dans la mer Méditerranée et mets plusieurs jours de marche à retrouver ce qu'était le bord de l'eau, là où j'avais laissé mes affaires. Sur le chemin, j'ai vu tant de poissons assoiffés. En plein début de printemps, on flirte déjà avec la canicule. Tu me ramènes contre toi. Tu m'embrasses. Je cherche dans ta salive le calme des pluies d'été sur le goudron brûlant, mais je ne trouve que le mélange de nos transpirations qui a le goût amer des fins de vacances d'été. Tu détestais l'idée de me voir rentrer en pleine nuit. Tu as déposé tes mains sur mes yeux. Je détestais la possibilité que tu puisses prendre froid. J'entoure ton corps de mes bras. Tu tombes sur mon lit. La suie recouvre les draps, puis si rapidement se dépose sur les murs et s'infiltre jusqu'au matelas et aux pages de mes bouquins préférés que je gardais si fièrement à la tête du lit. Personne n'en a parlé. Non. Le silence est si beau lorsque le soleil se couche. Mais qu'est-ce que je raconte ? C'était comme une tache de merde au fond de la cuvette des chiottes dont personne n'ose parler. Je passe mes mains sur ta peau et c'est froid et fragile sous mes paumes. Tu me rattrapes. C'est rugueux et je te vois, tu te retiens de tousser alors que ta langue suit les courbes de mon corps. Mon corps, mais quel corps ! Je craquelle sous tes doigts, je craquelle à chaque coup de vent, mais regarde-moi, bon Dieu ! Alors, comme le soleil qui fuit derrière l'horizon, tu te retires de notre lit. T'as oublié tes mains sur mes yeux. Le problème avec les fantômes, c'est qu'ils laissent toujours des traces derrière eux. Il y a tes vêtements, tes bijoux, tes bouquins qui s'en mêlent encore aux miens. Depuis l'enfance, je n'ai jamais eu besoin de manger. Pourtant, dans ma gorge perdure le sentiment d'avaler de travers depuis quelque temps. Oh, ce qu'il y a réellement de travers, ce sont nos yeux. Les miens perdus sous tes mains que tu as laissés. Les tiens qui se sont fait la belle, suivis par ton corps. Ton corps, mais pas tes mains. Non, pas tes mains, tes mains sur mes yeux. Ça tourne pas rond. C'est que je nage encore dans cette goutte d'opium qui se nichait au creux de ton cou. Je suis complètement stone par l'euphorie que tu ramènes et qui perdure. Je trébuche, évidemment. Ma maladresse m'entraîne dans une chute parmi des cascades d'épluchures. Carottes, tomates, courgettes, aubergines. Dis donc, tu nous prépares une vraie soupe de souvenirs, toi. À quelques mètres au-dessous de moi, je la sens. La coupelle qui te servait de poubelle de table lorsque tu cuisinais. Je m'étale au centre des carcasses de légumes. Tes mains s'émiettent d'un seul coup. Elles se retrouvent quelques mètres au-dessus de moi, manipulant l'économe. Plus de carottes, plus d'aubergines, plus de courgettes, plus de tomates sur ma tronche. Alors que je me débats dans les épluchures, je vois de moins en moins la lumière du jour. Je ruisselle, ma transpiration emporte tes dernières gouttes d'opium m'accrochant à ma peau. Mon corps repousse, se consolide. Je découvre des articulations dont j'avais pas idée. Dans mes mains rôde une nouvelle force. Elles agrippent enfin l'extrémité de la coupelle alors que les épluchures débordent désormais du récipient. Elles me hissent vers l'extérieur. J'entends un fracas. C'est une grande cruche qui s'effondre au sol. L'entièreté de l'appartement est inondée. L'eau s'infiltre par les aérations. Et la commission de la porte court dans les escaliers, déborde dans les rues, jusqu'à se jeter à la mer. Cette grande cruche, c'était moi. Quelle cruche, cruche, cruche ! La canicule de l'été s'est évaporée. Je redécouvre la sensation de l'air frais qui recouvre la peau. Et j'ai faim.
Wow. Merci Gaspard.
Merci pour cette écoute.
C'était intense.
C'était très intense pour toi aussi, j'imagine.
Oui, c'était sympathique.
Waouh. J'espère que nos auditeurs ont passé un bon moment. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chuchoter.
Ouais, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. C'était vraiment émouvant. Alors, ouais, wow. J'ai pas les mots en fait pour décrire l'expérience. J'espère que les auditeurs, les auditoristes ont ressenti ce qu'on a ressenti ici.
J'ai eu la chair de poule.
C'était magnifique, très sensoriel. Très, très sensoriel.
Bah, merci beaucoup.
Wow.
Merci à toi, Gaspard, franchement. Allez suivre Gaspard Gambin sur Instagram.
Ah, ça vaut le coup, ça vaut le coup.
Ah ouais.
J'ai vraiment adoré aussi le moment où tu dis imagine. Ça m'a vraiment fait retomber en enfance parce que quand on est petit ou petite, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça. Imagine, on était machin, imagine, on faisait ci. Et puis après, tu nous parles de cuisine, puis tu nous parles de paysage. Enfin, c'est incroyable, c'est tellement vaste. Et finalement, oui, c'est vraiment plus sensoriel et sensuel que érotique. C'est pas le cœur du sujet, j'ai l'impression.
Et j'en comprends d'autant plus le terme de suggestion. Et même le rythme est super particulier. Il me touche beaucoup. Tu passes d'un moment où tu peux chuchoter, être sensuel, et donc, bam, tu t'énerves. Et après, bam, tu reviens. C'est vraiment un vrai voyage que tu nous fais vivre.
C'est vraiment cette idée de pouvoir créer des balades. Et c'est un texte que j'ai eu l'habitude de lire accompagné de deux chaises pliantes, et je proposais aux gens une lecture. Et cette lecture, elle commençait par une balade. Donc c'était vraiment l'idée de... Voilà, on faisait une balade pour ensuite introduire une balade qui est plus mentale. Et ce texte, du coup, c'est l'ouverture de cette enquête que j'ai écrite en août. Ce texte-là, c'est pas une histoire d'une nuit, c'est une histoire d'amour qui s'est étalée. Et donc forcément aussi, il est assez riche parce qu'il contient 10 minutes d'une histoire d'amour qui a duré plusieurs mois.
Ah ouais, c'est très très fort.
Eh bien écoutez, pour introduire cette table ronde, j'ai une question à vous poser, chers auditeurs. Est-ce que vous savez ce qu'est la compersion ? Oui, non ?
J'ai peut-être une idée, mais...
Je vais vous dire. La compersion est un nom commun signifiant le bonheur ressenti lorsqu'un être aimé aime quelqu'un d'autre par opposition à la jalousie. Sentiment ressenti lorsque son partenaire manifeste de la joie ou ressent du plaisir avec quelqu'un d'autre que soi.
Merci Anna pour cette définition.
Eh bien, je vous en prie.
Mais c'est quoi la limite en fait ? Parce que si tout le monde se met à appliquer la compersion, on finirait tous en couple libre ou polyamoureux.
Oui, et puis moi j'ai l'impression que c'est... Je me vois pas être en couple exclusif. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle s'applique dans l'amitié, dans un couple exclusif de manière très simple. En fait, chacun, chacune peut faire ce qu'il a à faire avec d'autres personnes. Et il n'y a aucune raison que ça me rende jaloux. Mais si tu es dans un couple exclusif et que l'être aimé va avoir des relations intimes avec une autre personne, là, le sentiment de jalousie va se manifester et peut être légitime dans le sens où des termes, enfin, il y a eu un cadre à la relation.
Un contrat.
Un contrat, ouais.
Il faut lire les astérix aussi, c'est comme la publicité. Hein.
C'est vrai, souvent, il y a trop d'astérix.
Mais c'est pas évident, hein, le langage humain, il faut lire entre les lignes parfois. Hein.
Mm.
C'est pour ça que c'est mieux trop de communication que pas assez. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et en même temps, ce paradoxe de la compersion qui est dans un sens, j'imagine, assez inné. C'est normal de se réjouir du bonheur de ceux qu'on aime.
Mais jusqu'à où ?
C'est ça. C'est là où se posent les limites. Est-ce que ça s'arrête au travail ? Est-ce que ça s'arrête aux relations ? Aux amis ? C'est assez vaste et c'est un panel de questions qui donne lieu à d'autres réponses et d'autres questions.
Et c'est une boucle infinie.
C'est ça.
C'est aussi ce discours que j'ai parfois entendu qui est que trop de communication, la surcommunication peut être un tue-l'amour. Je le comprends, mais je ne suis pas forcément d'accord. Comme quoi, verbaliser, que ça soit dans un contexte dit intime, comme tu as pu nous le décrire, ou dans n'importe quel contexte de la vie, vouloir mettre des mots sur tout ce que l'on vit, peut avoir un effet négatif pour certains. Donc, je suis pas forcément d'accord.
Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça important de communiquer et s'arrêter à des limites en disant que si on parle trop, ça va tuer quelque chose. Mais en ne parlant pas assez, on peut arriver à des situations qui peuvent être dérangeantes, voire difficiles.
Les non-dits.
Mm-hmm.
T'as pu en vivre, toi, Gaspard, des non-dits dans le contexte de ce travail-là, en dehors du fait que tu ne parlais pas de ce travail-là ?
Dans ce travail-là, oui, quelques-uns, et même en dehors de ce travail-là, oui, pas mal.
Ouais.
Je trouve que ça demande beaucoup, ça peut ne pas être simple aussi de communiquer avec la personne qu'on aime. On peut, ou la personne avec qui on partage une intimité, et même avec dans des amitiés, parce qu'il y a aussi toujours un rapport à l'honnêteté et la communication, c'est hyper important. Mais parfois, tu sais que ça peut blesser. Comment est-ce que tu l'amènes ? Et qu'est-ce qu'il faut dire ? Et qu'est-ce qu'en fait, à un moment donné, peut-être que ça reste de ton intimité ? Et peut-être que ça, c'est trop, quoi, pour l'autre.
Mais pour savoir quand c'est trop, c'est qu'il faut déjà l'avoir atteint, cette limite.
Ouais,
c'est un peu
vrai.
Ça, la contradiction. C'est pour moins faire mal aux autres, il faut passer à un moment donné où il faut leur faire mal à un moment donné. Comment on peut savoir, sinon ?
Bah, du coup, c'est vrai que ça passe beaucoup par la communication. Elle est où ta limite, à toi ?
Mais il faut déjà être conscient.
Ouais.
Mais c'est dur d'être conscient quand on ne connaît pas ses propres limites.
Et est-ce que ce manque de communication et ce blocage de communication peut pas...
Il vient des parents ? Oui.
Non, j'allais dire, est-ce que ça peut justement mener à la compersion ? Ça passe par de l'auto-sabotage, puis de la compersion. De se dire que j'ai du mal à dire ce que je ressens à une telle personne, donc je me ferme sur moi-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va peut-être aller voir ailleurs, peut-être faire des choses qui, dans un sens, auraient pu me blesser, mais vu que j'ai eu, moi, du mal à m'exprimer, au final, je préfère m'en réjouir plutôt que de me sentir mal vis-à-vis de ça.
Mais là, j'ai l'impression que c'est plus presque une impression de contrôle que tu décris.
Mm-hmm.
Comme l'auto-sabotage te fait croire que la personne va partir. Si elle part, ça confirme presque la pensée qui te disait « C'était sûr, j'avais raison depuis le début en fait. » Vous voyez, elle est partie, elle dit.
Non, je ne le disais pas dans ce sens-là spécifiquement. Je disais vraiment, si on mettait une situation, j'ai envie de dire à une amie que j'ai certaines limites et qu'il y a certaines choses qui me blessent ou quoi. Et je préfère rester dans mon silence, ce qui fait que je vais moins la voir. On va moins se voir, moins se fréquenter. Et au final, avec le temps, on va peut-être un peu s'éloigner. Et je vais voir qu'elle s'est faite amie avec d'autres personnes. Et qu'elle va voir d'autres personnes parce qu'elle ne va pas rester seule non plus forcément dans son coin. Et au lieu de me sentir mal et de me dire c'est de ma faute, de me morfondre, je vais plutôt me dire c'est peut-être mieux comme ça et je suis contente qu'elle soit heureuse.
Mmh, oui, et puis je pense que la compersion au début, elle va plus se ressentir dans l'amitié. Si au final, aujourd'hui, je ne vois plus l'ami avec qui j'avais passé les 10 premières années de ma vie où c'était incroyable, je ne vais pas lui en vouloir, je ne vais pas m'en vouloir à moi. En fait, les chemins... se
oui,
croisent et se séparent finalement et du coup au contraire moi je trouve ça génial de pouvoir être un peu détaché de ça, de pas se dire que moi ça me rend pas triste de voir que la personne va ailleurs, que ce soit dans l'amitié ou même dans des relations amoureuses, des relations intimes.
Mm-hmm.
Mais la communication est vraiment importante, je pense.
Essentielle.
Et quand quelqu'un te dit, ben écoute, moi, mes relations, je les vois comme des contrats. J'avais vécu ça où personne me dit, bon, bah écoute, voilà, moi, je mets un contrat sur la table, ça se passe comme ça et pas autrement. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que cette personne avait assumé ça, était arrivée à un point où elle pouvait vraiment le dire de manière très simple et ça lui faisait pas peur. Et en fait, elle en avait rien à fiche, rien à, que l'autre personne... Si l'autre personne ne l'acceptait pas, bah c'est pas grave, tu ne l'acceptes pas, bah désolé, en fait, on ne va pas aller plus loin. Simplement, et je serai heureux pour toi, heureuse pour toi si tu continues.
Mais le nombre d'erreurs et d'échecs par lesquels il faut passer pour être suffisamment conscient de ses limites et ses besoins à un point où tu peux en faire un contrat pour la donner à la personne.
Ah ben oui, mais je pense que la compersion, elle ne peut pas venir, notamment dans les relations amoureuses, de suite. Comme tu dis, il faut passer ou par des échecs ou par des,
c'est sûr.
Des moments plus de flou et après avoir vécu, des fois... situation où, en fait, j'ai pourri une relation. Pourquoi ? Parce que j'ai pas osé parler à cette personne, parce que je me disais... C'est comme si t'as peur qu'il est 18h, ton père t'a dit de rentrer à 17h, et toi t'es à la bourre complète, et tu dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire ? Tu t'imagines dans ta tête, je vais me prendre une torgnole, il va me dire ça, je vais être privé de ci. Alors que si t'arrives et que t'es en confiance, bon bah écoute, c'est une heure de retard, il n'y a pas mort d'homme, tonton, je suis bien, je suis là.
C'était le père ou le tonton ? Attention.
Je sais pas, je t'appelle aussi tonton, tu vois. Il n'y a pas mort d'homme, j'arrive un peu plus tard. Si toi, t'es sûr, en fait, de... Enfin...
Confiance.
Oui, si t'es en confiance, finalement, bah, ça va se passer tout seul. Et il y a quelque chose d'invisible, tu vois, qu'on ressent. Si la personne en face sent que toi, t'as peur et que t'es stressé, bah, en fait, elle va le voir et du coup, elle va avoir peur. Et là, il ne pourra pas y avoir de moment ensemble, quoi.
J'ai l'impression que ça fonctionne quand même avec beaucoup de sujets de la vie. La confiance, c'est vraiment quand tu es sûr de toi, même quand tu ne rentres pas dans les critères, par exemple, de beauté actuelle ou de la norme, bah, tu plais quand même, en fait. Mm-hmm. Que ça soit pour le physique, pour le mental ou pour plein d'autres aspects de la vie. Quand tu as une aisance à faire ou à dire ou à être quelque chose ou quelqu'un, les gens, inconsciemment, c'est un peu ça ce que tu décrivais. J'ai l'impression presque que le terme énergie, tu dégages une certaine aura. Mm-hmm. Qui est alléchante, j'allais dire. Je suis pas un plat, je suis pas un McDo, frérot. Mais qui est beaucoup plus attractif, du moins.
Oui, et ça peut prendre beaucoup de temps d'arriver à être sûr de soi, que ce soit dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses. Mais finalement, l'autre personne le ressent. C'est un truc de ouf.
Bah, c'est comme, je vais dire quelque chose de bête, mais on lit ça à l'instinct, on peut parler des animaux, par exemple. C'est comme quand on croise un animal ou qu'on a un animal. Et en fait, quand on va l'approcher en étant stressé, l'animal va le sentir et va avoir peur. Alors que quand on va l'approcher en étant calme et serein, l'animal va être beaucoup plus docile. Donc en fait, il y a beaucoup de parts d'instinct naturel en nous, au final. D'avoir cette aisance à se sentir bien et à se sentir beaucoup plus facilement ouvert avec des personnes qui, elles, sont en confiance avec elles-mêmes.
Mmh. Et j'invite tout le monde à essayer d'être en confiance, mais c'est vraiment pas facile parce que, notamment de par les applications aussi de rencontres,
ou
les réseaux sociaux aussi.
Les réseaux sociaux, où en fait il y a beaucoup l'image et la consommation finalement. Tu vas voir quelqu'un d'autre qui va répondre à de meilleurs standards de beauté ou d'intelligence que toi. Et finalement, ça va faire que te sortir ta confiance que tu avais de base. Et pour moi, c'est des choses qui sont vraiment futiles. Mm-hmm.
Et
dans lesquelles il faut s'éloigner. Oui.
Si je peux me permettre de reprendre, mm-hmm. je vais prendre le sujet à contre-pied. Le fait de ne pas avoir confiance peut être tellement une clé nécessaire pour par la suite avoir confiance. C'est comme concept de perdre du temps. Il y a des gens, ils vont s'isoler, ils vont ne rien faire pendant des mois, voire des années. Mais parfois, c'est nécessaire pour vraiment concevoir la valeur du temps. Parfois, il faut l'avoir perdu, ce temps-là. Pareil pour la confiance. Parfois, il faut manquer de confiance pour comprendre qu'est-ce que ça vaut. Même pour la recherche identitaire dont on fait tous face ici.
Mmh. Bah, comme je le dis souvent, c'est un peu toucher le fond pour mieux pouvoir rebondir. Se propulser plus haut.
Mais ça, quand tu le vis, c'est pas...
Ça, c'est sûr.
Ah, quand t'es au fond, t'as du mal à voir la lumière.
Mais il y a un moment où il y a un déclic et où ça, bam, ça part. Et pour revenir à ce qu'on disait des réseaux sociaux, c'est vrai que de nos jours, on a beaucoup cette tendance à consommer très très vite. On voit avec les formats de vidéos qui sont passés des formats très longs
à très courts
ouais. Et de plus en plus courts. Et on le voit dans les vêtements.
Même
dans
la polémique avec Abrech Frère, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Oui, j'en ai entendu
parler. C'est encore plus court que ce qui était déjà court de base. Quoi.
Maintenant, des vidéos d'une minute, ça devient trop long pour certains.
Du coup, ils sont obligés de les couper en 10 secondes quoi, pour que ça soit plus rapide à consommer.
C'est ça la polémique.
C'est ça. Il y a un mec qui s'appelle Abrech Frère sur TikTok. Qui du coup a pris des vidéos de base de 1 minute, 30 secondes, et les raccourcit encore plus.
En gros, il donne la fin directement aux personnes qui ont la flemme de regarder jusqu'à la fin. Après, ça a pris des tournures beaucoup plus...
Au niveau du féminisme
tout, ouais, parce qu'il y a eu énormément d'hommes cisgenres en général qui commentaient Abrech Frère sous des vidéos de femmes qui racontaient certaines choses, femmes ou autres bien sûr, qui racontaient certaines choses de leur vie et qui se permettaient de dévaloriser leurs paroles parce que c'était des femmes ou que c'était pas des hommes en tout cas cis, si je puis dire.
Totalement. Mais la surconsommation, elle est omniprésente, même comme Gaspard tu en parlais en fait avec les applications de rencontres. C'est vraiment, tu consommes, c'est un produit, tu le prends ou tu le prends pas, et puis voilà, le prochain, et puis le prochain.
C'est ça, et puis tu dois travailler ton profil pour être un produit, et pour plaire.
Wow.
C'est vraiment ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a, pour moi, il y a vraiment une performance qui se joue dans cet espace-là, encore plus quand c'est avec des inconnus, parce que c'est une performance de séduction, où tu dois tout travailler, chaque détail, pour plaire à l'autre, et faire comprendre à l'autre que... toi, t'es safe.
Le bon cadrage, la bonne luminosité.
Mais c'est exactement ça. Et même tout le long du date, quoi. C'est...
Bah oui, c'est vraiment... Ça repose sur... OK, bon, on a passé l'étape des photos et de la description. Maintenant, on se voit en vrai. Et il faut que je donne tout. Je me maquille, je me mets sur mon 31. Je vais faire sortir tous les meilleurs penchants positifs de ma personne. Et en fait, tout n'est que prestation. Et c'est fatigant.
Oui, alors qu'en fait, on est humain, pardon.
C'est ça, non, au contraire, t'as très bien fait. J'avais l'impression, enfin, je voulais comparer un petit peu ça à la scène. Mettons, tu es dans les coulisses, donc tu travailles, tu te prépares bien. Les gens voient un petit peu ton travail parce que pour que les gens viennent te voir sur scène, mine de rien, il faut communiquer, il faut mettre en avant, faire ta promo. Et une fois que t'es sur scène, donc une fois que tu quittes l'application et que tu vas retrouver la personne dans la rue, t'es en représentation. Mais du coup, c'est là aussi où il y a le moment de la représentation. Quand t'es sur scène, t'as beau avoir préparé ton set, savoir exactement ce que tu vas faire, minuter, millimétrer, finalement, il y a toujours une grosse part d'inconnu et que ça qu'on peut pas enlever et que l'application de rencontre pourra pas remplacer. Que même si tu as travaillé ton produit avec des super photos, une super description, quelque chose qui va être alléchant pour reprendre tes mots, pour l'autre personne, qui va donner envie de rencontrer, finalement, quand tu vas voir la personne, déjà à chaque fois où tu es déçu, où tu trouves, mais en fait, je la voyais pas du tout comme ça.
Ouais.
Et en fait, tu contrôles plus. Et pour moi, je trouve ça vraiment important d'arriver à lâcher prise. Et on a du mal parce que tu dis, mais pourquoi en fait je lâcherai prise? Parce que je sais que demain, là je parle déjà à 3 ou 4 autres personnes sur cette application. Demain, j'ai un autre rendez-vous avec telle personne pour aller au cinéma. Donc, et finalement, cette application t'aide pas pour moi à vraiment lâcher prise.
Ouais.
Mais du coup, j'ai une question à vous poser. Si on prenait, si on faisait l'inverse, si on se mettait vraiment à notre pire image sur ces sites de rencontres. Si on faisait les pires grimaces, les pires angles, les pires descriptions, comme ça, t'es sûr que si tu matches et que la personne te rencontre, elle sera forcément plus satisfaite que déçue, tu vois.
Tu dis ça parce que tu l'as fait.
Je l'ai fait. J'ai rencontré mon ex comme ça, vraiment. J'avais cette fameuse application de rencontre très connue et j'avais fait les pires grimaces, des descriptions claquées au sol. Sur les centres d'intérêt, j'ai mélangé striptease, politique, tu comprends pas, frérot. Et putain, j'ai eu un match dans ma vie et on a fini par sortir ensemble, dites-vous. C'est une dinguerie, hein.
C'est fou.
L'histoire. Ouais, merci.
Mais incroyable.
Du coup, peut-être qu'il faut peut-être sur les réseaux sociaux se montrer pas forcément à son top, à son prime.
Oui, il faut s'en détacher. Et puis j'ai l'impression aussi de plus en plus, hein, artiste ou influenceur, ce qu'on veut, justement, on peut tellement envoyer de photos et en mettre régulièrement que les gens s'embêtent même plus à faire des super belles photos, des super beaux posts, parce qu'en fait, les gens ont aussi envie, il y a un peu ce retour-là, envie de voir les gens dans leur environnement naturel, et du coup, des photos un peu floues, des photos un peu en soirée, où la personne, elle a la gueule un peu à l'envers, ou machin, on va dire, ah super, on se sent un peu plus proche de cette personne-là.
Complètement, alors qu'il y a quand même encore beaucoup de contrôle sur l'image que tu renvoies.
Complètement, c'est vraiment bon, bah j'ai fait ça, c'est pour que ça passe bien dans mon feed,
Mais chaque paramètre peut être pris en compte, hein, que ce soit ta façon d'interagir en commentaire, tes identifications, ta photo de profil, tout. Tout peut être, elle peut être interprétable en fait à partir de ce moment-là. C'est aussi ça, peut-être pas le vice, mais ce qui fait que l'analyse, le parasocial qui n'existait pas avant est devenu omniprésent. On a des problèmes aujourd'hui générationnels qu'on n'a jamais connus. Ça a créé des problèmes, ça a créé des questionnements tout nouveaux.
Ça c'est clair.
Ouais.
C'est, moi comme je le dis, les applications de rencontres et les réseaux sociaux, c'est vraiment le catalogue universel des humains.
De fou.
C'est vraiment le catalogue des humains. Moi, je sais que j'ai été auparavant sur cette fameuse application.
La fameuse,
the famous one.
L'anecdote marrante, c'est que mon copain, je l'ai rencontré sur cette appli à la base. Et en fait, notre relation n'a pas du tout découlé de cette application. Au final. Mais c'est vrai que... et c'est ça qui est drôle, c'est que si je me basais sur ce que je voyais de son compte, et c'est ce que je me suis dit au début, je me disais, bah, vraiment, je soufflais, quoi. c'est triste à dire, mais parce qu'en fait, je ne voyais pas grand-chose, et je me disais, bah, il n'y a pas d'intérêt, en fait, je m'en fous. Et en fait, c'est en rencontrant la personne en vrai que je me suis dit, c'est la même personne ? Ah ! Et en fait... c'est vraiment ce truc de se détacher complètement de l'image des réseaux sociaux, parce que si j'étais restée sur ça, je ne serais pas avec aujourd'hui. Et en fait, on passerait à côté de tellement de choses, parce qu'on montre un peu ce qu'on veut sur les réseaux sociaux au final. Je peux montrer plein d'images, des animaux, des machins, et être la pire personne. Ce n'est pas le cas.
Et détester les animaux, quoi.
Mais oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça.
Il n'y a que des chats sur son compte.
Oui, c'est vrai, je confirme. Il n'y a que des chats. Et j'adore les chats.
Psychopathe.
Mais c'est vrai que c'est un peu épuisant de toujours faire face à justement ce catalogue de gens parfaits, entre guillemets, où il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas... un truc qui...
Vas-y.
Il n'y a pas un truc qui n'est pas parfait, en fait. Tout simplement. Voilà.
Mais c'est beau, l'imperfection.
Et c'est ça.
Rien de plus parfait
c'est
que de pas être
parfait.
C'est
ça. Oui.
Soyez imparfait au présent.
C'est pour ça que même si vous avez des relations imparfaites, si la vie, c'est pas un film romantique, restez, puis voilà.
Non,
là, peut-être que je généralise un peu trop.
Eh bien, on est en train d'arriver tout doucement à la fin de cette heure tous ensemble. C'était très enrichissant. Je te remercie, Gaspard, d'être venu avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez passé un super moment avec nous sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM à Marseille et au-delà sur Internet. N'hésitez pas à suivre son travail, gaspard.gambin sur Instagram, ça vaut le coup. C'est frais, c'est beau. Et puis pour suivre aussi toutes tes actualités, parce que mine de rien, tu charbonnes.
J'avoue, le charbonnage est présent.
Ça se voit les cernes un peu. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée d'être là.
De notre côté, on se retrouve le 18 mars, toujours sur Radio Grenouille. L'émission sera rediffusée seule jeudi à 10h du matin et sera également disponible en podcast sur notre Spotify. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram les uns et les autres. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus à nous suivre et nous vous en remercions.
Et pour conclure, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la Saint-Valentin, c'est que du commercial et on n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour dire qu'on vous aime. Et oui, on vous aime, on vous adore.
Et c'est... on s'aime nous-mêmes
oui,
aussi.
Oui, on s'aime, aimons-nous vivants, comme disait Sadek.
On vous laisse sur la reco de l'abonné et aujourd'hui, c'est Mathieu qui nous propose sur Instagram le son Lost on You de LP, que vous connaissez probablement. Elle a conquis les ondes en 2015 en explorant les aspects complexes de l'amour et de la perte. Les paroles reflètent les émotions intenses ressenties lorsque l'on perd quelqu'un à qui l'on tient profondément. LP exprime le désarroi et la douleur causée par la rupture d'une relation, ainsi que le sentiment d'être perdu et désemparé sans cet amour. La chanson évoque également le désir ardent de retrouver ce lien perdu, la lutte pour surmonter la peine. En somme, Lost on You capture la profondeur des émotions liées à l'amour, y compris la tristesse, le désir et la vulnérabilité. L'amour, ce n'est pas que beau. Et c'est pour ça que c'est beau. C'est sur ces mots qu'on conclut cette émission. Ciao tout le monde.
Ciao tout le monde. Ciao, ciao les uns. Ciao les autres.
Bisous. Bye bye.
of expectations in your mind.